Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vous présente tous mes vœux sincères pour cette nouvelle année 2021, en espérant qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et en tout cas qu'elle soit plus facile. Je vous souhaite également de belles aventures littéraires en compagnie de Délivrez-vous et avec ces deux ailes. Pour commencer cette année, pour Délivrez-vous, eh bien un auteur que j'apprécie particulièrement et je sais que vous aussi, son précédent ouvrage a remporté un franc succès et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de nouveau le recevoir pour la suite de ce merveilleux livre qui était Le Loup des Cordeliers. Bonjour Henri Lovenbrook.
Bonjour.
Merci de nouveau d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour la suite du mystère du Loup des Cordeliers. Là, c'est le mystère de la main rouge, toujours aux éditions IXO. Alors, nous avons laissé notre héros, journaliste Gabriel Joly. La Bastille est tombée. Sont sortis de l'ombre des gens comme Robespierre, Desmoulins, Lafayette, etc. Et puis, il a aussi ses acolytes, Théroigne de Méricourt et ce pirate Récif, qui est un personnage, une entité, un livre presque à lui tout seul. Alors, notre ami et journaliste Gabriel Joly a, trouvé qui était le loup des Cordeliers, mais au moment, bien évidemment, de pouvoir le démasquer, eh bien, de nouveau, le loup des Cordeliers lui a échappé. Alors, il y a d'autres personnages également dans le précédent ouvrage, notamment cette bibliothécaire, jeune femme dont il est tombé amoureux, qui est apparemment aveugle, qui lui fait découvrir aussi tout un arsenal de livres anciens qu'aujourd'hui nous appellerions incunables. Alors, dites-moi, ça a demandé aussi énormément de recherches, que ce soit dans Le Loup des Cordeliers ou Le Mystère de la Main Rouge. On va aussi s'apercevoir qu'il y a une secte. Bref, tout cela fait que c'est de nouveau un livre absolument passionnant, toujours cette écriture du verbe toujours élégant et passionnant et passionné. Alors dites-moi Henri Lovenbrook, comment s'est passée l'écriture de ce mystère de la main rouge? Et vous avez retrouvé sans doute comme nous, avec grand plaisir, Gabriel Joly.
Oui, c'est devenu un peu un compagnon de voyage, Gabriel, parce que, vous savez, c'est ça, l'intérêt d'écrire des romans qui se suivent,
oui.
Puisque là, dans le cas des enquêtes de Gabriel Joly, je pense que je vais en faire 5 ou 6, peut-être même plus.
Ah, mais c'est une super nouvelle.
C'est que les personnages, on peut les développer dans la longueur.
Oui.
On peut du coup leur faire traverser bien plus d'épreuves et d'émotions que quand c'est les personnages d'un seul roman. On les voit grandir avec soi. C'est un petit peu le lien qu'on peut aussi avoir avec des personnages de séries télé, vous savez,
oui,
pendant des
fait.
Années, on peut s'attacher et voir grandir les personnages et même les acteurs.
Complètement, c'est vrai.
Et dans un roman comme ça, dans une série de romans, moi j'aime bien voir faire traverser à mes personnages bien plus de choses que dans un seul roman.
Ouais.
Donc je retrouve Gabriel Joly avec plaisir et je vais lui faire vivre encore beaucoup de choses.
Oui, d'autant plus que vous en avez fait un personnage attachant, sympathique, on l'imagine bien, droit, drôle, plein de verf, plein d'allant. Alors, moi je trouve que alors c'est à la fois un anti-héros et en même temps un héros. C'est-à-dire que bon, il fait pas 2 mètres, il est pas, on l'imagine costaud, mais enfin sans plus. Voilà, un petit jeune homme bien sous tout rapport, propre sur lui, dirais-je. Il fait partie de bonne famille, mais en même temps vous en avez fait un héros sympathique. Et ça c'est pas toujours évident.
Oui, il va changer parce qu'il va vivre, voilà, il vit des épreuves et il va vivre des épreuves de plus en plus difficiles.
Et oui.
Il va commencer à s'abîmer un peu, ce qui
oui.
pour moi est essentiel parce
oui.
que c'est la beauté d'un être humain est souvent le fruit de ses blessures et donc Gabriel va se blesser, va s'abîmer un petit peu au fur et à mesure et devenir de plus en plus humain. Au début, il est finalement assez froid, hein,
oui.
c'est un personnage qui est passionné par le savoir,
timide, c'est un timide aussi.
Qui sort de ses études, mais
oui.
qui n'a qu'une idée en tête, c'est s'instruire, étudier, etc. Du coup, il est un peu froid, il est un peu inadapté, il n'est pas prêt à cette vie vraiment foisonnante qu'il peut y avoir dans le Paris de 1789.
Ouais,
et petit à petit, il va apprendre justement à s'ouvrir grâce aux blessures et aux épreuves qu'il traverse.
Tout à fait. Surtout que dans Le Loup des Cordeliers, au départ, il a été quand même assez malmené. Hein. Il a été recommandé par son oncle, mais bon, finalement, ça ne se passe pas comme il veut. Les journalistes en gèrent la journaliste un gras de papier. Donc finalement, il va se lancer dans cette aventure de la mouvance de la Révolution. Il va inclure tout ce qui est le clan des Moulins, Robespierre, Lafayette, avec à côté de lui Thérouanne de Méricourt. Un jour, le pirate Récif va plus ou moins lui tomber dessus et finalement, ça va devenir des acolytes et des partenaires incontournables. Et on les retrouve bien évidemment dans le mystère de la Main Rouge, parce que le mystère de la Main Rouge, c'est l'histoire d'un gant rouge sur lequel Gabriel est tombé un jour en faisant ses recherches pour trouver le Loup des Cordeliers. Alors le Loup des Cordeliers, c'est un on va dire que c'est un justicier, hein, on le retrouve dans la Main Rouge, qui s'en prend aux gens mal intentionnés dans un Paris très très bouleversé et très remuant.
Oui, c'est ça, c'est un justicier qui vient plutôt au secours des femmes.
Oui, des femmes, oui.
La nuit, voilà, qui vient défendre plutôt la nuit, les femmes qui se font...
La veuve et l'orphelin, pourrait-on dire.
Oui, qui sont victimes de l'injustice que leur inflige la gente masculine.
Oui, c'est vrai.
Voilà, qui est pour moi un sujet important de façon générale, mais en particulier au sujet de 1789, parce que ça a été un grand tournant raté dans la place de la femme dans notre société. C'est le moment où les femmes ont commencé à taper du poing sur la table et ça a été les grandes perdantes de la Révolution. C'est-à-dire qu'on a réussi à changer notre société de façon assez radicale suite à cet étrange moment de notre histoire, cette étrange Révolution.
Oui.
Mais on avait rendez-vous avec des changements pour les femmes à ce moment-là. C'était le moment justement de donner le droit de vote aux femmes autant qu'aux hommes. C'était le moment de permettre aux femmes d'acquérir leur indépendance et de plus être simplement soit épouse, soit fille. Et ça s'est pas passé. C'est-à-dire que tous ces braves révolutionnaires qui faisaient des grands discours sur la liberté et le droit des hommes ont oublié les femmes.
Ouais. Voilà. Et alors, pourtant, dans cette saga, dirais-je, et on la retrouve bien évidemment dans le mystère de la Main Rouge, il y a Thérouanne de Méricourt, hein, quand même une femme haute en couleur, avec un fort tempérament, qui n'hésite pas à parler, à lever le bras, à lever le poing, à se lever contre l'injustice. Elle est toujours harnachée d'une manière extraordinaire, donc on ne peut pas la rater. C'est l'emblème même de la femme telle que on aurait aimé qu'elle soit reconnue à ce moment-là.
Oui, et puis c'est un personnage romanesque aussi.
Oui,
alors là,
en plus.
J'essaie d'être assez rigoureux historiquement dès que je parle d'aspect historique. Autant sur Thérouanne, je prends des libertés, j'en fais un personnage un peu plus romanesque que ce qu'elle n'était probablement dans la véritable histoire. Mais c'était un personnage étonnant et que les gens connaissent mal.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on connaît bien Olympe de Gouges ou Marie-Antoinette, qui sont les deux grandes figures féminines de la Révolution dans l'esprit des gens, mais en réalité, Thérouanne de Méricourt, c'est un personnage très important et qui est très touchant, qui a un destin extrêmement touchant, et j'avais envie un peu de, moi-même, de le découvrir, de me documenter plus sur ce personnage qui m'a toujours intéressé, et de le faire découvrir, de la faire découvrir au lecteur, à travers cette présentation qui est très imagée. Alors c'est vrai, elle avait une apparence très, cette robe amazone,
les grands chapeaux avec
les grands chapeaux, etc. Donc je rajoute pas là-dessus, mais je lui fais prendre une part plus importante dans l'histoire que celle qu'elle n'a eue. Parce que j'avais envie de la mettre en valeur et que les gens découvrent et peut-être aillent s'intéresser à sa vie.
Alors il y a d'autres personnages réels comme le Jean-Baptiste Mercier qui a été un personnage important, mais il y a un personnage que j'aime beaucoup. On l'aime, on le déteste, mais malgré tout on a envie d'avoir sa protection parce que on sent que il détient entre guillemets certains pouvoirs et que finalement il aide quand même pas mal notre Gabriel Joly. C'est le pirate Récif.
Oui.
Un personnage haut en couleur.
Un personnage fictif que j'ai inventé.
Oui.
avec cet amour que j'ai pour les pirates.
Oui, on le sent, hein. Vous l'aimez beaucoup, ce personnage.
Oui. Il est inspiré d'un personnage réel, d'un ami, qui est un pirate des temps modernes, et je me suis inspiré de lui pour créer ce pirate de 1789. Voilà.
En tout cas, c'est un personnage intéressant et qui apporte quand même souvent son aide, il faut le reconnaître, à Gabriel Joly. Alors, dans cet opus du Loup des Cordeliers, on va se retrouver face à, on va dire, à une secte, à un clan particulier qui, ce sont des gens qui veulent avoir la mainmise un petit peu sur les événements. Il y a aussi, je crois que c'est sur la déesse Métra, si je me trompe pas. Il y a tout un enchevêtrement qui vont nous emmener en Corse, en fait. On franchit un petit peu les frontières de Paris, ça va nous emmener en Corse. Alors comment s'est passée cette recherche, cette idée de la secte, un petit peu comme ça, ombrageuse, un peu mystérieuse, un peu terrifiante aussi, parce qu'on se dit, ce sont des hommes qui peuvent avoir une mainmise sur un pouvoir et sur une France qui à ce moment-là est quand même assez fragile et bouleversée.
C'est un symbole pour moi, c'est-à-dire c'est une incarnation imagée et romanesque du pouvoir de la grande bourgeoisie en 1789, qui est, on va dire, la seule véritable bénéficiaire de la Révolution. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Révolution française? Simplement, la principale chose qui s'est passée, c'est que on a perdu, et tant mieux, une aristocratie, mais malheureusement, on en a gagné une autre à la place. Mmh. C'est-à-dire que le pouvoir financier, mais aussi surtout terrien, est passé des mains de l'Église et de la noblesse à celle de la bourgeoisie,
oui.
De la grande bourgeoisie industrielle, de gens qui à l'époque s'étaient enrichis par la traite négrière, qui n'avaient pas accès aux terres parce que les terres étaient squattées, par le biais des privilèges par la noblesse et par l'Église. Et cette chose-là, ça a été le changement majeur de la Révolution, c'est-à-dire que les grandes familles industrielles ont pu enfin obtenir plus de terres et plus de droits, plus de privilèges. Et elles se sont encore enrichies davantage. Et je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit est le fruit de ce moment de notre histoire où on s'est débarrassé d'une aristocratie, mais on en a mis une autre à la place, qui est toujours là, qui est toujours présente. C'est toujours les mêmes familles qui sont qui ont ces privilèges depuis 1789 dans notre pays, quoi.
Tout à fait. En fait, oui, la bourgeoisie a monté le peuple contre le pouvoir en place pour mieux se l'approprier, d'une certaine façon. Voilà.
Oui, en tout cas pour faire tomber celui de l'Église et de la
monarchie.
Qui était une très bonne chose, parce que les privilèges étaient quelque chose d'absolument insupportable.
Tout à fait.
C'est très bien qu'on s'en soit débarrassé. Le seul problème, c'est que ceux qui les ont récupérés, comme ils ont été mis en vente, ces privilèges, ça a été la bourgeoisie de l'époque. Et puis dans les droits pour lesquels les gens se sont battus, il y en avait très peu qui finalement étaient des droits pour le petit peuple. C'était des droits plutôt pour les bourgeois.
Tout à fait.
Et il y en a et pour les femmes, comme je le disais tout à l'heure, il y en a eu aucun quasiment.
Oui. Alors bien, écoutez, j'espère que le privilège que nous proposons à nos auditrices auditeurs, c'est ce moment de musical, une petite pause, et nous nous retrouvons tout de suite après. We'll be right back. retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Henri Leuvenbrook pour son nouveau roman historique, Le mystère de la main rouge aux éditions Exo, qui est la suite du Loup des Cordeliers. Et nous retrouvons Gabriel Joly. Alors, comment vous est venue aussi l'idée de ce mystère de la main rouge, du gant rouge, hein? Je disais, le gant rouge, il apparaît déjà dans Le Loup des Cordeliers. On le retrouve. Alors, on va pas tout raconter parce que si certains de nos auditrices auditeurs n'ont pas lu Le Loup des Cordeliers, on peut pas tout raconter. Comme ça, ils auront envie de le lire et de lire la suite. Mais comment vous est venue l'idée de cette main rouge, de ce gant rouge?
C'est un symbole, c'est le symbole. La main, déjà, c'est le symbole du pouvoir.
Oui.
Et le rouge, évidemment, c'est la couleur du sang. Donc, mm-hmm. Mais encore une fois, là, faut pas que j'en dise trop. Il faut que l'on puisse le
découvrir. Voilà, tout à fait. Ben oui.
Dans
c'est
le
compliqué.
Livre. Mais c'est une. Oui, c'était pour moi, c'était un symbole assez fort du rôle que je donne à cette mystérieuse société secrète dans le livre, où je m'amuse à renouer un peu avec le polar ésotérique. Qui est un thème avec lequel j'aime bien jouer, bien m'amuser. Je l'avais fait dans Le Rasoir d'Occam.
Le Rasoir d'Occam, que je conseille à toutes et tous. Hein. Ah oui. Oui.
Et dans Le Testament des siècles, et dans d'autres livres comme ça. Donc, voilà, c'est plus un jeu qu'autre chose. Hein.
Mm-hmm. Et vous nous emmenez en Corse. Pourquoi la Corse?
Parce que j'aime la Corse. J'adore la Corse. C'est un pays, une terre magnifique.
Oui. Et qui se prêtait au mystère?
Et puis, alors oui, évidemment, mais aussi parce que la Corse a une histoire révolutionnaire qui est méconnue par les continentaux, qui précède celle de la France, c'est-à-dire que les révolutions corses ont eu lieu avant les révolutions françaises. Mm-hmm. Et l'histoire de la Corse est passionnante et on la connaît très très mal.
Mm-hmm.
Elle n'est pas enseignée en France, en tout cas ma génération. Peut-être qu'aujourd'hui on enseigne davantage à l'école l'histoire de la Corse, mais moi on ne l'a jamais appris à l'école.
Oui, c'est vrai.
Et quand j'ai bossé sur ce livre, j'ai été fasciné de découvrir cette histoire, l'histoire des révolutions corses, l'histoire de ce roi qu'il y a eu en Corse, de manière très brève, mais voilà, et de voir comment ce peuple, en fait, ça aide. Connaître l'histoire de la Corse, en plus, ça aide à comprendre la Corse telle qu'elle est aujourd'hui, de voir comment ce peuple a été traité comme une marchandise, passé d'une main à une autre plusieurs fois.
Avec différentes invasions de différentes...
Et c'est une... Ben voilà, et moi, c'est la Corse a toujours été un endroit où j'aime passer du temps. J'ai des amis très très chers là-bas que j'aime beaucoup, du côté de Porto Vecchio.
Ah bah oui.
Et j'avais envie, voilà, pour une fois, de pouvoir enfin promener mes personnages sur cette terre que j'aime si chère.
Oui. Alors, que ce soit dans Le Loup des Cordeliers et Le Mystère de la Main Rouge, on se balade dans Paris avec cette description toujours très précise que vous faites de ces quartiers parfois disparus, oubliés ou métamorphosés, hein, bien évidemment. Mais ce Paris de 1789, moi je le trouve assez fascinant parce qu'il a plein de recoins, de petits mystères, des ombres, une petite église, une petite chapelle. Et c'est vrai que après Le Loup des Cordeliers, j'avais pris pas mal d'annotations de ce Paris, et puis je me suis baladée avec des amis et mon mari dans Paris en essayant de retrouver quelques traces. Ça demande sûrement une recherche, une documentation très très pointue, acharnée même.
Oui, alors moi je suis parisien depuis ma naissance, donc
moi aussi.
48 ans. Donc ça fait 48 ans que je me documente sur Paris.
Ouais.
J'ai une documentation assez longue et j'ai toujours été passionné par ça. C'est amusant parce que j'ai ressorti d'ailleurs, quand je me suis documenté pour ce livre, j'ai ressorti des livres que je lisais quand j'étais ado.
Ouais.
Par exemple, il y a le guide du vieux Paris qui est de Lilleray, qui est très connu, qui est un ouvrage très très connu, mais que je lisais quand j'avais 15-16 ans.
Hier donc
Voilà, hier, il y a une semaine, et que je ressors donc 30 ans plus tard pour me documenter sur le livre. Et voilà, donc j'ai toujours aimé Paris. J'ai deux sœurs qui, elles, on est tous les trois nés à Paris, mes deux sœurs ont quitté Paris. Moi, je suis le seul qui est resté parce que j'aime follement cette ville.
Mm-hmm.
Je me sens très très bien et pour avoir beaucoup voyagé,
c'est la plus belle ville du monde. C'est la plus belle ville.
Comparé, je ne sais pas si c'est la plus belle ville du monde, mais
pour moi, si.
Qui nous correspond le mieux, en tout cas.
C'est vrai. Il y a d'autres villes dans le monde qui sont très belles, mais Paris sera toujours Paris, de toute façon.
Et du coup, je suis toujours beaucoup renseigné sur Paris, j'ai toujours beaucoup marché dans Paris. Je me suis marché moins que d'autres véhicules que je préfère à la marche, mais en tout cas, je me suis toujours promené dans Paris. Et donc, pour travailler sur le livre, ça a été plus facile parce que je connaissais déjà surtout ce quartier, qui est le quartier, on va dire, de la culture pendant la Révolution. C'est le quartier de l'Odéon, où était Danton, où était Des Moulins.
Voilà, ils se retrouvaient dans le café, dans les cafés, dans les petits bars.
Dans le Procope, etc. Tous les imprimeurs étaient là. Alors, il y avait d'autres quartiers révolutionnaires. Il y avait Saint-Antoine à côté de la Bastille, etc. Mais en tout cas, celui-là
était...
Des pamphlétistes étaient plutôt celui de l'Odéon.
Oui.
Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, effectivement, pour préparer le Loup des Cordeliers et l'Esther de la Marron.
Oui. Alors, vous parliez du Procope, chacun le sait, c'est un des cafés les plus vieux de Paris. Mais alors, c'est presque un personnage, ce café, dans vos deux livres. Parce que, effectivement, il se retrouve là et il est prédominant. C'est presque un acteur, un personnage. Tout ce qui se passe autour, c'est quand même quelque chose. C'est une entité à lui tout seul.
Oui, c'est un peu le centre névralgique de cette révolution en marche qui commence. Et puis, qui a une histoire forte, puisque c'est aussi ça a aussi été le café des encyclopédistes.
Oui, complètement.
Diderot, d'Alembert, etc., qui s'y retrouvait, qui écrivait là-bas. C'était normal de lui rendre hommage dans mon livre. Et puis, c'est un café qui existe toujours. Alors, même s'il a changé, c'est plus un café à touristes maintenant. Aujourd'hui. Malheureusement, à mon grand âme.
Hélas.
Contrairement à d'autres cafés qui ont su garder
leur âme
initiale à Paris, celui-là, il est plutôt devenu un café touristique que les touristes, souvent asiatiques, viennent voir justement en tant que le café de la Révolution. Donc on n'y a pas la clientèle un peu locale et du quartier, d'habitués qu'on peut avoir dans d'autres cafés comme...
La Closerie des Lilas.
Par exemple, la Closerie des Lilas, typiquement un café avec des clients habitués qui reviennent, qui sont là. Le Procope, c'est plutôt chaque jour des gens différents et des touristes. Visuellement, ça reste un café qui est très sympathique, très intéressant et où j'aime bien aller boire un verre de temps en temps.
Une fois à la Closerie des Lilas, parce que nous en parlons, j'avais été avec des amis, j'avais eu la chance de rencontrer Jean Edernallier et Jean d'Ormesson. Ça a été un grand moment.
Ah oui.
Ouais. Ça a été un grand moment. Alors, notre ami Gabriel Joly se retrouve, on le disait, dans de nouvelles aventures, ballotté, trimballé. Déjà, sans dire trop de choses, mais il va falloir qu'il retrouve ses esprits très vite, au début de la Main Rouge. On le disait, il avait mis la main sur le justicier le Loup des Cordeliers, mais bien évidemment qui lui échappe. Alors, pour ceux qui ont lu le premier, ils savent qui il a attrapé, on ne dira rien, puisque il faut laisser aux autres lecteurs, n'est-ce pas, le soin de le découvrir. Vous disiez, vous êtes prêt à écrire encore 5-6 histoires sur Gabriel Joly. Ce sera toujours, je suppose, sur le fond de la Révolution. Va-t-il attraper ce Loup des Cordeliers un jour?
Oui, ça sera toujours sur le fond de la Révolution, puisque les deux premiers tomes couvrent à peine
1789, quatre mois de Révolution. Parce qu'il faut dire aux éditrices, auditeurs, que la prise de la Bastille, ça ne fait que commencer, la Révolution.
Oui, la Révolution dure plusieurs années.
Oui.
Et là, on finit le deuxième tome en août 89.
89,
Il nous reste encore beaucoup de temps pour que Gabriel puisse se promener dans ce Paris révolutionnaire.
Voilà. Mm-hmm. Donc, plein de projets pour notre Gabriel Joly en perspective, donc.
Absolument, plein d'enquêtes, plein de nouvelles enquêtes de Gabriel dans l'avenir.
Alors, donc, est-ce que... quand même, il arrivera, vous pouvez mettre Gabriel Joly sur d'autres enquêtes, mais est-ce qu'il arrivera à mettre la main sur le loup des Cordeliers?
Ah bah ça, je peux pas vous le dire.
Bon, d'accord. Ok. Alors, toujours dans ce pari, au travers de tous ces détails que vous nous donnez, il y a une chose qui est très importante. Alors, c'est sans doute le romancier, l'historien, dirais-je aussi, qui en parle bien. C'est que le livre, la bibliothèque, c'est un élément important aussi, que ce soit dans le Loup des Cordeliers ou dans la Main Rouge. Vous parlez beaucoup des imprimeurs, parce qu'il faut imprimer les pamphlets. Mais l'imprimerie, le livre, les livres rares, c'est une chose qui est très importante. Il y a une bibliothèque dont on parle assez souvent dans le Loup des Cordeliers ou même dans la Main Rouge.
Oui, oui, bah, écoutez, là, c'est assez clair, c'est mon métier, le livre.
Oui.
C'est une passion, un sujet que j'aime bien traiter, et puis particulièrement les vieux livres. Alors, 1789, c'est une époque où le livre a pris beaucoup d'importance, oui. En tout cas, l'écrit a pris beaucoup de place. Mm-hmm. Il y a plus de 30 000 pamphlets qui ont été publiés, ne serait-ce que sur les débuts de la Révolution.
Oui.
C'est une époque où les imprimeries tournent jour et nuit, et chaque jour on imprime des textes, des pamphlets, que ce soit révolutionnaires ou contre-révolutionnaires. Donc forcément le livre a une grande importance dans l'histoire de la Révolution et donc dans la série de
Gabriel Joly, oui. Alors Gabriel Joly, au-delà du héros, du jeune journaliste finalement forcené, acharné, obstiné, vous en avez fait aussi un peu un homme amoureux.
Eh ben, comme tout roman qui se respecte, c'est un roman d'amour.
Aussi.
Je pense que tous les romans doivent être des romans d'amour.
Oui, c'est vrai. Alors, il est amoureux de cette jeune bibliothécaire aveugle. Avec qui il
part... Alors, non, elle n'est pas aveugle, elle est muette.
Elle est muette. Avec qui il partage l'amour des livres, et elle lui fait d'ailleurs dans Le Loup des Cordeliers découvrir sa bibliothèque secrète.
Oui, ce qui est plus logique pour quelqu'un de muet, parce que s'il était aveugle, la bibliothèque lui servirait pas à grand chose.
Oui, c'est vrai. Et le braille n'existait peut-être pas à ce moment-là.
Voilà. Il existait déjà. Et le langage, justement, le langage des sourds muets, en était assez balbutinant.
Oui, tout au début.
Commençait. Et d'ailleurs, elle le pratique dans le livre.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Mais oui, c'est un personnage qui, j'espère, est attachant.
Oui, mystérieuse aussi.
Une jeune orpheline qui a été récupérée par les moines.
Par les moines. Du
Cordelier.
Oui.
Et qui grandit parmi eux, recueillie à Paris, et qui grandit parmi les moines, et qui se passionne pour la lecture, pour le livre, et pour la conservation de la bibliothèque du couvent des Cordeliers.
Et c'est extraordinaire, parce que quand Gabrielle lui parle de quelque chose, elle sait exactement où est rangé le livre, elle va le chercher immédiatement, c'est inscrit en elle, c'est quelque chose qui lui appartient en propre, on la sent aussi passionnée, vous l'avez rendue passionnée en tout cas par les livres. Eh bien, voilà, moi j'enjoins à chacun à lire la suite du Loup des Cordeliers, la Main Rouge. Le troisième tome, c'est pour dans quelques mois, Henri Lovenbrook ?
Ça sera au mois d'octobre, comme tous les ans.
D'accord.
Parce que le mois d'octobre est devenu le mois de Gabriel Joly.
Eh bien, écoutez, c'est parfait, on le retrouvera avec plaisir. Je rappelle donc la suite du Loup des Cordeliers, le mystère de la Main Rouge aux éditions XO. Ça a été un vrai plaisir de nouveau de vous recevoir. Bravo, parce que c'est un livre intéressant. Toujours, je disais, cette élégance dans le verbe, dans l'écriture, c'est brillant. Voilà, c'est ce que je dis souvent à votre éditrice, c'est brillant. Merci Henri Lovenbrook, et puis je vous souhaite une belle année 2021. Et puis, j'espère vous retrouver à l'automne prochain avec Gabriel Joly, de nouveau. Merci beaucoup. Merci, au revoir.